Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Avant-dernière fin de semaine de novembre 2025, ici Alex Baillargeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. Dans une semaine classique libérale, disons ça comme ça. Avec des chicanes internes, avec une possible corruption, des 100 piastres garochés à gauche puis à droite, ou des brownies, nouvelle expression à la mode. Quelle saga, pareil. Ça reste hautement problématique et ça fait en sorte que on a dû remonter jusqu'à la Direction générale des élections, au DGE, pour même poser la question, est-ce que ça devrait être illégal de pouvoir racheter des votes à la sélection d'un chef, si ça s'est produit. Et apparemment, non. Ce n'est pas illégal, c'est amoral. Évidemment, les gens sont stupéfaits de cette réponse-là, que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans les règles électorales que tu ne peux pas acheter le vote de gens à la course à la direction d'un parti politique. Parce qu'on s'était dit, quel est l'intérêt de faire ça, probablement. Donc, à la grosse base de tout ça, si c'est authentifié, si réellement ces textos-là ont été véridiques et ont été partagés pour vrai, ces personnes-là avaient trouvé un flou dans la loi qui leur permettait d'acheter une élection. Donc, repartons du début de la semaine, parce que cette saga-là est à plusieurs chapitres. Le tout a commencé au début de la semaine. Donc, il faut rappeler aussi que le Parlement n'est pas en activité cette semaine. Donc, il était en semi-congé toute la gang. Et mardi, Marois Risky, alors encore chef parlementaire, donc qui prend la place de Pablo Rodriguez à l'Assemblée nationale, comme il n'est pas un député élu, c'est elle qui agit en tant que Pablo, qui prend la place de Marc Tanguay en tant que chef parlementaire. C'est elle qui prend la parole en premier à l'Assemblée nationale pour questionner le premier ministre, etc., etc. Fait que c'est elle qui devient numéro 2, mais non, numéro 3. C'est quand même Non, il n'y a plus de vice-président. C'est vrai, Geneviève, elle a perdu son titre de vice-présidente, vice-première ministre, c'est-à-dire. OK, numéro 2 dans l'échiquier à cette heure. Derrière la CAQ, évidemment, dans l'ordre de succession. Théoriquement, là, les deuxièmes chefs, là, prendraient pas le pouvoir si François Legault n'était plus en poste, là, ça serait quand même un caquisme. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Il reste 80 députés avant que... même moins que ça, je pense. On est rendu à combien de démissions? Bon Dieu. à ce moment-là. Donc là, on est mardi. Elle est convoquée au bureau de Pablo Rodriguez dans les bureaux du Parti libéral. Accompagnée de son avocat. Une rencontre d'à peu près 10 minutes a lieu. Marois Rouski en ressort dans le plus grand, ben dans le à peu près plus grand des silences qu'elle peut avoir. Le journaliste de brousse de TVA Nouvelles y court après et pose la question: êtes-vous encore chef parlementaire? Elle sourit, regarde à terre, mais répond hein. Mario Dumont rajoutera: oh, c'est un silence parlant. Et effectivement, ce silence parlant-là fait en sorte que Pablo Rodriguez sort. Je l'appelle Pablo, là, mais c'est pour rire, là, mais c'est Pablo. Là. Donc, ressort de son bureau, devant les portes du bureau du Parti libéral. Marois Rouski est démis de ses fonctions sur l'heure du midi mardi dernier. Le mardi qui est passé. Donc, la dernière vedette, si on veut, du Parti libéral, la dernière tête d'affiche du parti, qui est quand même appréciée et que les gens allaient regretter lors de son départ parce qu'elle avait annoncé déjà de toute façon qu'elle ne se représentait pas aux prochaines élections, se fait montrer la porte temporairement par Pablo Rodriguez. Donc, elle n'est plus dans le secret, s'il en reste, du Conseil libéral. Faudra attendre le lendemain, sauf erreur. Ouais, la conférence a lieu le lendemain. Là. Donc, Pablo convoque les médias pour dire qu'il n'est pas au courant du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui se passe, de pourquoi Marois Rouski a décidé de renvoyer une conseillère à Pablo. Donc, a décidé de renvoyer, son nom c'est Geneviève Hinze, la directrice du cabinet libéral, donc qui, normalement, travaille avec le chef libéral, c'est-à-dire Pablo, mais qui travaille également avec le chef parlementaire, dans ce cas-ci, la chef parlementaire, Marois. Donc, c'est un peu la courroie de transmission entre les deux, même si, très certainement, Pablo et Marois se parlaient quand même, mais Geneviève Hinze, c'était essentiellement... celle qui colle les shots, comme on dit, donc qui jase avec le chef, qui s'occupe de parler avec tout le monde aussi. Donc, comme c'est la chef de cabinet de Pablo et non pas la chef de cabinet de Marois, semblerait-il, avec le peu d'informations qui a été capable d'être véhiculée cette semaine, que, essentiellement... ça n'allait pas nécessairement tout le temps bien entre les deux. Mettons qu'il y avait des frictions, ce qui, jusqu'à ce matin, vendredi, au moment d'enregistrer, était juste signifié comme une mésentente, comme une chicane à l'interne, que c'était des RH, que ça devrait être géré, donc des ressources humaines ou ressources de travail, dans ce cas-ci, sans que nécessairement la population au grand complet soit mise au courant que c'était une gestion à l'interne qui devait être gérée. Ça fait en sorte que mercredi après-midi, Geneviève Hinze met en demeure Marois Rouski pour congédiement abusif, pour whatever les raisons, mais décide de mettre... De poursuivre Marois Rouski, notamment parce que Marois n'a rien dit publiquement depuis sa disparition dans l'ascenseur du bureau des libéraux, qu'on ne l'a pas revu nulle part ailleurs et qu'elle n'a jamais rien dit de manière publique. Donc, elle s'est vraiment effacée et disparue depuis mardi matin. Sans non plus avoir donné d'explication sur le congédiement de la numéro 2 sous Pablo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la chicane? Ou ne serait-ce que c'est quoi les motifs de renvoi qu'elle aurait pu utiliser pour mettre dehors Geneviève Hinze? Et où, justement, ça ne passait pas? Et d'où, pourquoi... Marois Risky a perdu sa job à elle, c'est parce que justement Geneviève Vince étant l'employé du parti, mais l'employé de Pablo, vu que Pablo n'a pas été mis au courant, il a vu ça comme une trahison. Il a vu ça comme une attaque personnelle. Nommons ça comme on veut, mais que... que Pablo aurait dû être informé que Geneviève Vince allait se faire mettre dehors, première affaire, et que, ben, s'il avait été mis au courant, il aurait peut-être pu négocier avec Marois Risky pour que Geneviève Vince ne soit pas mise dehors comme étant une proche de Pablo. Chose que j'ai d'ailleurs découvert hier parce que les images d'archives de Geneviève Vince montraient qu'elle s'était présentée aux élections fédérales. Donc, elle est, elle aussi, une ancienne libérale fédérale. Elle s'était présentée dans Rosemont, la petite patrie. Donc, elle s'était présentée contre Alexandre Boulris. Évidemment, avec les chances qu'elle soit élue, c'était mince. Peut-être pas impossible, mais mince. Donc, c'est ça. Donc, dans le comté d'Alexandre Boulris à Montréal. Et, ben c'est ça. Fait que probablement qu'elle est devenue adjointe parlementaire à Pablo quand elle n'a pas gagné ses élections au fédéral. Et quand il a traversé le pont des Outaouais, elle s'est envenue avec lui à la course. Donc, deux libérales fédérales qui, évidemment, veulent peut-être faire ça à la manière libérale fédérale comme on le voit régulièrement. Et que, justement, ce clash-là existe entre les libéraux fédéraux et les libéraux provinciaux. Contrairement à d'autres régions au Canada... Les deux libérales ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils sont en accord, mais ne sont pas tout à fait sur les mêmes longueurs d'onde tout le temps. Donc, on était encore dans une tentative d'essayer de ressusciter le Parti libéral, mais avec encore de la corruption, possiblement. Ça pourrait faire en sorte que, ben c'est ça, le Parti libéral remportera peut-être pas autant de sièges qu'il le pensait. Quoique, les élections sont dans 11 mois. Ça a le temps de passer, mais soyez sûrs et certains que Paul et François Legault, s'il est encore là, vont faire en sorte qu'on se rappelle à chaque jour de la campagne électorale ce qui se passe en ce moment, en novembre 2025. Le Journal de Montréal et le FM 98.5 de Cogeco à Montréal font découvrir à tout le monde, révèlent que des textos auraient été envoyés pendant la campagne de Pablo Rodriguez où, dans un franglais épouvantable, parce que c'est la langue des jeunes, on ne sait pas trop, c'est assez difficile à lire quand on le lit à haute voix. Sébastien Bovet a dû le faire comme 4-5 fois dans la seule journée de mercredi quand c'est sorti. Puis c'était juste plus comique que d'autres choses parce qu'on ne comprenait rien. Et essentiellement, dans ces textos-là, on promettait de donner de l'argent si Pablo Rodriguez était élu, donc d'acheter des votes pour Pablo et lui permettre de gagner la chefferie. Ce qui a fait en sorte qu'également... Mais ça, c'est deux sujets différents. Donc, la chicane entre Marois et Geneviève Vince, c'est un cas. Mais dans la même semaine, c'est rajouté ce scandale-là, bien, si ça n'est un. Parce qu'encore une fois, ça n'a pas encore été officialisé que ces textos-là étaient réellement échangés entre deux libéraux qui voulaient acheter des votes pour Pablo. Et même où c'est allé plus loin, c'est que le 98.5 a attribué la discussion à deux députés de Laval, une de la CAQ et une autre du Parti libéral pour... On ne sait pas trop quelle raison, mais surtout que si la députée de la CAQ avait réellement comploté dans le dos de sa gang pour faire élire Pablo Rodriguez. Fait qu'il y a comme beaucoup de niveaux là-dedans. Et évidemment, les deux députés ont décidé de poursuivre le 98.5 parce qu'ils ne voulaient pas, avoir affaire avec ça. Et ben, la CAQiste est encore dans les rangs de la CAQ, donc forcé de constater qu'on l'a cru du côté de la CAQ que c'est pas elle qui a envoyé ces textos-là. Donc, en ce moment, c'est le 98.5 qui doit dealer avec ça. Ça, c'est pour les textos. Mais voilà, donc, en plus de la crise à l'interne dans sa gestion d'employés, Pablo doit dealer avec un scandale qui remet en question sa propre élection. Ce qu'on a appris avec le DGE, avec le directeur général des élections, c'est que c'est pas illégal de donner de l'argent ou de donner un cadeau. C'était réellement des brownies, littéralement ce carré au chocolat avec ou sans noix. Si on était réellement rendu à donner des brownies pour vrai pour voter pour Pablo, Il y a un problème. Donc, la CAQ veut se pencher là-dessus. Ça a été annoncé, je pense, c'était jeudi, que la CAQ voulait qu'on révise ce bout-là de la loi qu'on n'a pas le droit de donner d'argent en général pour avoir un vote. Et ce qui est important de noter, c'était que c'est pas facilement repérable parce que le système libéral est allé par points. Donc, combien de points vaut un vote? Ce bout-là n'est pas clair. Mais comme c'est un système de pointage, on peut pas savoir si Pablo Rodriguez a gagné avec 5 votes de différence. C'est vraiment 5 personnes qui ont donné des points différents entre Pablo et Charles Milliard, qui a terminé numéro 2, ou si il a gagné de toute façon par une large majorité parce qu'ils ont acheté, mettons, une vingtaine de votes. Mais une vingtaine de votes à 100$ du vote, c'est quand même 2000$. Fait qu'à quel point, si c'est vrai, on a voulu mettre autant d'argent pour que Pablo Rodriguez gagne la chefferie d'un parti qui est même pas sûr de gagner la prochaine élection. Qui plus est, Pablo lui-même n'est pas assuré de gagner son élection parce qu'on sait même pas dans quel comté qu'il se présente, si dans un château fort libéral à Montréal ou s'il décide de sortir et devenir, comme on le pensait, à Sherbrooke. Parce qu'en ce moment, la projection de siège donne Sherbrooke au PQ et non pas au Parti libéral. Mais encore une fois, ça va dépendre qui seront les candidats dans la circonscription de Sherbrooke, parce que ça, ça va faire une différence. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il y avait des... Ben, comme notre ancienne mairesse, Évelyne Baudin, n'est plus en politique municipale. On l'a vu dans les rassemblements péquistes lorsque Paul Saint-Pierre Plamondon est venu la semaine dernière à l'université. Et là, les rumeurs, évidemment, sont déjà parties qu'elle voudrait se présenter pour le PQ. Donc, ce qui serait pas impossible, mais en même temps, si c'est elle qui se présente dans la circonscription de Sherbrooke, ça risque d'être difficile qu'elle rentre directement en tant qu'ancienne mairesse, parce que c'est pas une ancienne mairesse qui, dans la rue, quand on demande au Kidam quelle est la préférée de tout le monde, son départ n'a pas été regretté tant que ça non plus. Donc, reste à voir comment ça se passera. Et comme et pour terminer toutes les parenthèses, les textos, ça reste à être authentifié. Donc, voir qui a réellement envoyé ça, parce qu'évidemment, on n'a pas les numéros de téléphone dans les captures d'écran qui ont été envoyées par le journal. Évidemment qu'il y a une enquête qui est probablement déjà lancée. Et où la semi-conclusion, parce qu'évidemment, ça ne sera pas terminé cette semaine. Vendredi matin, Marois Risky brisait un petit peu le silence, ou en tout cas, les informateurs et les collaborateurs qui parlent un petit peu aux journalistes de Radio-Canada ont réussi à avoir une affirmation de Marois disant qu'elle a congédié Geneviève Hain, son ancienne directrice de cabinet, pour raison d'importants manquements en matière d'éthique et pour d'actes répétés en insubordination. Ce seraient les explications qui figurent dans une lettre, bon voilà. C'est une lettre dont Radio-Canada a obtenu copie, transmise par l'avocate de Mme Roy, Mme Risky, pardon, par Maître Léa Couture-Thériault, au procureur de Mme Hain, Maître Jacques Janson, en réponse à la mise en demeure envoyée mercredi après-midi. Missive de Radio-Canada a obtenu copie vendredi matin, soutient que l'ex-directrice de cabinet est bien au courant des raisons qui ont mené à sa fin d'emploi. Donc, Marois y aurait dit, et non pas comme Geneviève prétend ne pas avoir eu de raison de son congédiement. Votre cliente soutient ne pas connaître les motifs de sa fin d'emploi alors qu'elle a choisi de ne pas se présenter à la rencontre expressément convoquée à cette fin. Oh, fait qu'en plus, Marois Risky a renvoyé Geneviève Hain sans avoir Geneviève Hain devant elle. Bon, c'est sûr que ça peut être un peu surprenant. Cette décision est intervenue à la suite d'un examen attentif de plusieurs situations préoccupantes observées et communiquées quant à l'exercice de ses fonctions, de sa conduite professionnelle, ainsi qu'au respect des obligations inhérentes à son rôle de directrice de cabinet de la chef de l'opposition. Le congédiement de votre cliente a été imposé en raison d'importants manquements en matière d'éthique, notamment en ce qui concerne le respect des normes de l'Assemblée nationale du Québec, des procédures internes, des attentes liées à la fonction qu'elle occupait. À cela s'ajoutent des actes répétés d'insubordination, incluant le non-respect d'instructions claires émises par notre cliente, Marois Risky. Notamment, votre cliente, Geneviève Hain, a refusé de donner suite à la directive de la NOTE de consulter la commissaire à l'éthique. Donc, est-ce qu'on a voulu faire du fédéral au provincial et ne pas contourner certaines règles? Est-ce qu'on a voulu donner de l'argent à quelqu'un, on ne sait pas. Ben, c'est ça. C'était rester dans les explications floues et d'en pas donner le plus de détails, ça peut laisser mille et une explications au monde et de se faire sa propre opinion. Donc, on comprend les avocats de Geneviève Vince qui disaient là, un moment donné, dites qu'est-ce qui se passe parce que ça arrange. Les spéculations vont de tous bords et de tous côtés. Donc, dossier à suivre, littéralement. On fait une courte pause au retour. La suite du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Le couleur au 44e étage Invisible Touch, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Pour compléter, en fait, selon l'aïus du scandale libéral de la semaine, parce que, évidemment, il reste une couche. Et il faut rappeler que, à l'origine de tout ça, pourquoi est-ce que Marois a décidé de congédier Geneviève Vince pour manquement à l'éthique et pour tous les problèmes? C'est que plus tôt cette semaine, semblerait-il que Geneviève Vince aurait utilisé des fonds publics, à savoir des budgets accordés par l'Assemblée nationale pour financer des activités de nature partisane dans les tournées régionales de Pablo Rodriguez, qu'une telle pratique est interdite. Donc, l'espèce de tournée que Pablo veut faire en attendant d'être un député élu, c'est qu'il avait déjà promis qu'il allait aller à la rencontre des électeurs libéraux. Donc, de ce qu'on peut comprendre de ce que la source libérale a indiqué à la presse, c'était que dans le fond, que le gaz de Pablo était payé à même les fonds de l'Assemblée nationale. Et comme cette tournée-là ne s'inscrit pas comme étant dans les activités d'élus, normalement, ça devrait sortir des caisses du Parti libéral et non pas des caisses de l'Assemblée nationale. Donc, parce que Geneviève Vince serait allé fouiller dans les fonds du parti à l'Assemblée et non pas dans le fonds privé du Parti libéral, c'est ce qui aurait fait en sorte que le torchon brûlait déjà entre Marois et Geneviève Vince, ne serait-ce que des désaccords entre elles, mais de rajouter le fait que Geneviève Vince a peut-être utilisé des fonds alloués normalement aux travaux de l'Assemblée pour payer la tournée de Pablo. C'est là que ça aurait peut-être pas passé. Donc, encore une fois, ce sera à vérifier si réellement il y a des fonds qui sont sortis du budget à l'Assemblée pour le compte du Parti libéral pour payer la tournée de Pablo, ce qui serait bien sûr pas légitime. Donc, c'est ce qui faisait en sorte que la chicane est pognée entre les deux. Et donc Mme Vince, qui elle est une proche de Pablo Rodriguez, ancienne candidate du Parti libéral du Canada, a été employée suite à la victoire de Rodriguez à la course à la direction le 14 juin dernier. Le chef du Parti libéral, Pablo, a prévu de rencontrer son caucus et la presse ce vendredi après-midi pour faire front commun, ou en tout cas montrer l'unité des députés restants en vue de la reprise des travaux parlementaires, donc faire un petit stun de « on est derrière Pablo malgré tout » et que Marois est écarté. Pablo devrait être également à « Tout le monde en parle » ce dimanche à Radio, ici Radio-Canada Télé. Ce qui fait en sorte également que la question va se poser si Greg Kelly, député de Montréal et conjoint de Marois Risky sera aux côtés de Pablo ou s'il sera aux côtés de son épouse. Il devait y avoir un souper d'un cocktail du Parti libéral jeudi soir où Pablo et Greg Kelly devaient être présents. Sauf erreur, c'était même dans la circonscription de Greg Kelly que le souper se tenait et il ne s'est pas présenté, bien sûr, à ce dit souper. Donc, à suivre, genre de samedi, genre de dimanche. Vous le savez, si Greg Kelly était à la conférence de presse vendredi après-midi. Mais Jean de Sherbrooke, ça sera à découvrir dans le bulletin de nouvelles de ce soir, si vous ne l'écoutez pas en direct. Si justement il sera aux côtés de son épouse ou aux côtés du parti. Parce que Greg Kelly, sauf erreur, avait l'intention, lui, de se représenter à la prochaine élection. Marois Risky, elle, évoquait pour de vrai des raisons familiales de ne pas continuer l'aventure politique. Dans les coulisses, dans les rumeurs, Marois Risky finalement se mordrait peut-être les doigts de ne pas avoir fait la campagne électorale. Peut-être que finalement, elle aurait... Ben, en fait, non. Elle aurait emporté la course à la chefferie, de un. Mais que finalement, ben, c'est ça, avec la tournée des événements et qu'avec les... Peut-être, est-ce que parce qu'on lui avait donné Geneviève Vince entre les pattes sans que ce soit son choix, peut-être est-ce que ça lui a fait dire, ouais, finalement, j'aurais peut-être dû devenir la chef... j'aurais peut-être dû devenir la chef pour pouvoir décider moi-même des choses que je voulais faire avec le parti. Et c'est ce qui a questionné énormément de commentateurs aussi cette semaine. Si Marois Risky aspire à revenir en politique, et ne serait-ce que si elle croit encore en son parti, pourquoi est-ce qu'elle a mis des bâtons dans les roues de même du Parti libéral? Est-ce que... On apprendra qu'elle va se représenter sous une autre bannière à une prochaine campagne, sait-on jamais. Mais ça restait quand même particulier, le silence pesant de Marois Risky d'avoir en fait, droppé une bombe mardi. Malheureusement, j'ai utilisé une expression que tout le monde a utilisée cette semaine, « lâcher une bombe », mais qu'elle a comme laissé faire tout exploser, puis qu'elle est partie en courant sans rien dire avant ce vendredi matin, ou même, c'est même pas elle qui parle, c'est la lettre dont les médias ont obtenu copie, qui parle pour elle, donc qu'elle ne dise plus rien, comme si elle avait juste comme « bon, ben vous voulez me mettre dehors, parfait, arrangez-vous avec vos troubles », ça ressemble à ça. Peut-être que c'était pas ça son intention, mais encore une fois, elle ne parle pas, elle n'est pas en entrevue de nulle part, ou peut-être est-ce qu'elle le fera d'ici la semaine prochaine, ou au courant de la semaine prochaine, mais et sera-t-elle à l'Assemblée nationale la semaine prochaine? Toutes ces questions à venir dans les prochains épisodes. Au retour, la suite du deuxième service de cette semaine, courte pause. Et on parlera justement de ses intentions de vote, puisque un nouveau sondage est sorti et on l'a réparti dans les circonscriptions. Et c'est pas gagné. Ben, c'est gagné pour l'instant pour le PQ, mais on se rappellera qu'à un an des élections avec le Parti conservateur, on disait que c'était sûr et certain que Pierre Poilievre allait tout gagner contre Justin Trudeau. Il reste encore des surprises dans cette campagne électorale provinciale-là, ne serait-ce que cette semaine avec le Parti libéral qui a rejoué dans ce même vieux feuilleton de contribuables, de contributions, peut-être ou non, à faire élire quelque chose ou quelqu'un et donner de l'argent en échange de services ou piger dans la petite caisse et faire des choses qui ne sont pas supposées être faites avec cet argent de petite caisse. Voilà, la mafia libérale, comme on le lisait dans un certain livre. Et c'était drôle aussi de voir que Jean Charest était proche conseiller de Mark Carney au Moyen-Orient cette semaine. Donc, on a revu Jean Charest également dans les nouvelles en tant que conseiller spécial. Fait que tout est dans tout, comme on dit. Étonnamment, il n'a pas voulu se prononcer non plus sur le scandale en ce moment au Parti libéral provincial, mais bon, hein? Qui est-il pour donner son avis? Je ne jouerai pas les belles-mères, comme il l'a si bien dit. Courte pause sur les ondes de CFAQ sur les ondes de Chiz. Autoportrait de Virginie B. qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ sur les ondes de Chiz. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été à la petite carte pour voir ce qui en était de la carte québécoise, donc où se jouera peut-être les élections à la prochaine, campagne. Si des élections avaient eu lieu il y a maintenant deux semaines, le dernier sondage, ou en tout cas avec la pondération des sondages les plus récents, bien sûr, le Parti québécois serait en tête avec une petite baisse, mais avec 72 députés malgré tout. On se rappelle qu'il en faut... il en faut 63 pour une majorité, donc on est à plus 9, ce qui est encore bon pour le PQ. 35 comptés sûrs pour le PQ, mais 32 sûrs pour le Parti libéral, puisqu'il serait à 39, ce qui n'est pas super bon, mais ce qui est quand même mieux que la dernière fois. Ce serait un plus 18 en termes de députés. Le Parti conservateur, s'il remporte toutes les élections aussi serrées, pourrait faire 7, ce serait un record absolu pour... le parti, depuis qu'il est revivu de ses cendres, où ça fait mal, c'est Québec solidaire qui tomberait à seulement 4 et ce n'est pas acquis. Ça pourrait être compétitif, même dans les circonscriptions laissées vacantes par Manon Massé et Gabriel Nadeau, donc Gouin et Sainte-Marie-Saint-Jacques à Montréal. Hochelaga aussi devrait être safe, mais pas complètement. Ça pourrait être serré avec le Parti québécois. Et la CAQ passerait de 90 députés élus, on s'en souviendra, sont maintenant plus que 79-80, là, les comptes sont difficiles à maintenir, pourrait terminer avec seulement 3 députés. Et encore là, c'est pas garanti, ces 3 députés-là. On se rappelle, c'est surtout à cause du fait que la CAQ n'a pas réformé le mode de scrutin. Donc, malgré le fait que la CAQ elle serait, dans ce cas-ci, le parti qui obtiendrait environ 13, 14, 15 mais qui se retrouverait avec zéro députation, comme l'a été le Parti conservateur d'Éric Duhaime, aussi fatigant qu'il peut être, mais de manière équitable, si cette réforme du mode de scrutin-là avait été faite, François Legault aurait pu sauver sa chemise au minimum, mais comme il refuse de quitter et comme il refuse toujours le mode de scrutin, malgré l'alliance qu'il avait fait à l'époque avec Gabriel Nadeau-Dubois et à l'époque Jean-François Lisée, il n'y a pas de suite à ça. Fait que évidemment, ça n'arrivera pas. Ça ne se pourra pas non plus. Ce qui est particulier, les 35 sûrs pour le PQ, les 32 sûrs pour le Parti libéral. Donc, on part déjà avec une bonne avance. Mais le Parti libéral se maintient. Autant que les conservateurs se maintiennent, les péquistes sont les seuls à faire un petit peu moins bon que les autres sondages. Ça revient au profit de Québec solidaire et de la CAQ, mais vraiment pas suffisamment pour faire une différence. Et où, justement, ça devenait important, c'est parce que le Parti libéral reprenait un petit peu du poil de la bête parce que le Parti québécois parle de référendum depuis les 2-3 dernières semaines. Ce qui a peut-être fait en sorte que, justement, son point de pourcentage est un petit peu moins bon. Parce que faut le rappeler, quand on va détailler ces chiffres-là, les 2/3 seulement des votants pour le PQ veulent voter oui à un référendum, alors que le dernier tiers, lui, voterait non à ce même référendum, même s'il vote pour l'option péquiste. Ce qui est important, et je pense n'avoir parlé même la semaine dernière, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas seulement le vote en faveur d'un parti qu'il faut prendre en considération dans les élections. Il ne faut surtout pas oublier le vote contre le parti qui est au pouvoir et ou qui a la possibilité de gagner dans une circonscription. Donc, si ou il y a certaines circonscriptions où ça va être un peu serré entre le PQ et la CAQ, il ne faut pas oublier qu'à travers tout ça, il n'y aura pas nécessairement des votes en faveur du PQ, mais bien des votes pour faire dégager la CAQ. Et d'où ce qui peut expliquer justement que seulement 2/3 des votants du PQ voteraient oui à un référendum, quand normalement, si tu votes pour le PQ, tu es supposé vouloir voter pour le référendum. Parce que l'article 1 du Parti québécois, c'est de séparer le Québec du Canada. Donc, c'est une tentative d'explication qui a été donnée pour justifier qu'en ce moment, certains électeurs du PQ ne voteraient pas pour le référendum. Mais où ça peut devenir un peu intéressant et où on peut trouver certains rescapés, parce qu'on est réellement à parler de ça, là, des rescapés de la vague péquiste. Parce que voilà, il a atteint quand même un sommet au début de l'automne avec quasiment 40 % des intentions de vote pour le Parti québécois. Ça s'est stabilisé à 33. Le nombre de sièges a frôlé les 80. Pour le Parti québécois, on est revenu à 72. Donc, PQ majoritaire, pour l'instant, c'est toujours dans les plans. Mais encore une fois, est-ce que dégrainer le petit livre bleu à Paul Saint-Pierre Plamondon va continuer de convaincre les gens à vouloir continuer de voter pour eux ou faire l'effet inverse, ça restera à voir. Mais il reste encore 11 mois avant la prochaine élection. Fait que tout a le temps de changer, bien sûr. Ce que j'essayais de trouver, c'était par partie. Parce qu'en ce moment, oui, il y a des trucs qui sont assurés, il y a des trucs qui le sont un petit peu moins. Bon, le Parti conservateur, où il fait ses gains, c'est en banlieue de Québec. Et c'est important de le préciser parce que Québec-Centre, Québec-Centre-Ville, Québec même, ça devrait être le Parti québécois qui fait une razzia d'à peu près tout. Ou ça peut être un petit peu compétitif et un petit peu serré. Ce sera notamment dans les circonscriptions où il y a encore des candidats solidaires dans la circonscription, notamment le nouveau porte-parole masculin Sol Zanetti qui se présente à Québec en ce moment. Dans Jean Lesage, Sol Zanetti est en deuxième position, 35 contre 29. Est-ce que ce sera suffisant maintenant qu'il est co-porte-parole de retrouver sa circonscription? Pas nécessairement. Donc, pour l'instant, un des deux co-porte-parole ne serait pas de retour à l'Assemblée nationale, de même que l'autre candidat à la chefferie qui se présentait, lui, dans la circonscription à côté, Étienne Grandmont, voilà. Étienne Grandmont, lui aussi, en ce moment, il est en difficulté. Non, ça, c'est Jean Lesage. La circonscription voisine de Taschereau, voilà. Étienne Grandmont, lui aussi, il a un retard d'à peu près 8 %. Ça va être difficile, lui aussi, dans Taschereau, de réussir à remporter l'élection. Donc, est-ce que les deux députés solidaires de Québec pourraient disparaître? C'est une possibilité. Même chose à Sherbrooke. On sait que Christine Labrie ne devrait pas se représenter dans la circonscription de Sherbrooke. Pour l'instant, et Saint-François, et Sherbrooke, et Richmond devraient passer aux mains péquistes. En ce moment, Sherbrooke pourrait avoir un député péquiste, mais c'est serré. Donc, tout dépendamment à Sherbrooke, qui seront les... QS est rendu troisième à Sherbrooke. 16 %. Il est là. Donc, Sherbrooke, tout dépendamment qui seront les candidats du Parti québécois, du Parti libéral, de Québec solidaire, la course va être difficile. Ou en tout cas, ça va être une des courses serrées probablement à surveiller pendant la soirée électorale de l'an prochain. Richmond, voilà, qui pourrait passer également aux mains du Parti québécois. Donc, la moitié de l'Estrie serait Parti québécois, donc celle qui va également aller toucher Drummond, qui va aller toucher Arthabaska, où ça redevient libéral. C'est notamment dans les circonscriptions d'Offord et de Brome-Missisquoi. Donc, Isabelle Charest, elle non plus, ne devrait pas récupérer son siège. Les trois survivants de la coalition Avenir Québec. Il y a notamment le déchu François Bonnardel à Grimbay, qui pourrait conserver son siège malgré tout. Étonnamment, Christian Dubé à La Prairie, en banlieue de Montréal, pourrait conserver son siège. Et Sonia Lebel, dans Champlain, pourrait elle aussi conserver son siège. Donc, ce sont les trois caquistes qui devraient survivre à la vague péquiste. Mais sinon, même François Legault à l'Assomption, de l'autre bord de Montréal, est en difficulté dans sa circonscription. Le PQ ramasse à peu près tout pour ce qui est du Saguenay, de l'Abitibi, sauf le nord du Québec. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Laurentides, la Naudière, c'est pas mal tout acquis au PQ. Centre du Québec aussi. Chaudière-Appalaches, comme je le disais, ça devrait être le Parti conservateur, donc Lobinière, Lac-Mégantic, les deux boss, c'est ça que je disais, les banlieues de Québec. Sur la rive nord, Chauveau, Portneuf et La Pelletrie pourraient être aux mains du Parti conservateur, mais encore une fois, si tout va bien, s'il n'y a pas de pleurs de bananes qui sont mises sur la route d'Éric Duhaime, ou si même Éric Duhaime continue à être le chef du Parti conservateur, pour l'instant, ça regarde bien pour eux. Je sais plus si ça prenait 10 députés pour être reconnu comme un parti officiellement à l'Assemblée nationale avec les budgets qui vont avec. Mais en ce moment, si toutes les luttes un peu serrées des conservateurs leur sont gagnantes, ou s'il n'y a pas trop de votes contre eux en votant pour le PQ, ils pourraient repartir avec au moins 7 députés. Ce qui serait vraiment un record. Et ce ne serait pas grâce à Éric Duhaime, mais ce serait bien parce qu'on veut vraiment du changement, du moins dans ces régions-là, ou au fédéral, de toute façon, on vote déjà conservateur. Donc, ce serait une continuité des choses, bien évidemment. Une courte pause avant la conclusion de l'émission cette semaine sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Bonanza, qu'on vient d'entendre en musique avec « Ça finit par passer » sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Terminons peut-être cette semaine avec l'autre gros dossier. C'est le baron de la drogue canadien, le Pablo Escobar des temps modernes et ancien olympien. C'est peut-être le bout le plus funky de tout ça. Il est passé de baron de la drogue. D'olympien à baron de la drogue, plutôt dans l'autre sens. Donc, Ryan Wedding, le chevreuil apeuré Cash Patel, a même promis 15 millions de dollars US pour réussir à mettre la main au collet de Ryan Wedding. Donc, une série Netflix doit être en préparation si ce n'est pas une série Crave. Sait-on jamais qui pourrait jouer Ryan Wedding? Dans la quarantaine de même. Mais un peu bâti. Ça pourrait être... J'allais dire Gabriel Sabourin. Ouais, Gabriel Sabourin, ça fitterait. En tout cas, à suivre qui jouera son rôle. Il est un Canadien. Fait que ça sera peut-être quelqu'un au Canada anglais, finalement. Donc, le Pablo Escobar des temps modernes a déployé un réseau international de tueurs à gages pour protéger son organisation principale de trafic de cocaïne et traquer les délateurs, selon une enquête commune des autorités américaines et canadiennes. Un avocat canadien qui s'identifiait lui-même comme étant le cocaine advocate, fait que, t'sais, l'avocat de la cocaïne. Fait que, il n'était pas subtil. Et un site de nouvelles participait à cette chasse, selon des documents judiciaires obtenus, notamment par la presse. Donc, une conférence qui a été faite cette semaine, où la justice américaine cherche à neutraliser l'organisation menée par Ryan Wedding, narcotrafiquant international, comme étant le nouveau Pablo Escobar, le Pablo Escobar des temps modernes, dans l'opération Slope Style. Parce qu'évidemment, ils ont de la suite dans les idées et il y a un jeu de mots à faire avec la neige et avec de la neige. J'en ris, c'est pas drôle, il y a des gens qui sont morts, mais ça reste dans l'imaginaire, pour vrai, une série que tu veux écouter sur Netflix, une série qui va jouer à Crave ou Tout TV ou peu importe où ça sera. Lui et ses complices sont accusés du meurtre d'un ex-allié devenu délateur qui s'apprêtait à témoigner en cour contre Wedding. 7 Canadiens, dont le chef de gang montréalais, Atna Ona, a été arrêté dans cette enquête d'envergure. Les détails de Giant Slalom. Colin, je me suis trompé. Donc, Slalom Géant, le vrai nom de l'opération, ont été dévoilés à Washington dans un point de presse par la procureure et chien de poche de Donald Trump, Pam Bundy, et le chevreuil écarté, Cash Patel, ainsi que la commissaire de la gendarmerie royale, Mike Durham. C'était lui qui était le... Ah oui, c'est vrai, c'est notre sort du fentanyl! Mike Dahern, me semble que c'était lui qui avait été nommé tsar du fentanyl pour être complaisant avec Donald Trump, d'y donner ce qu'il voulait. Oui. État-major supérieur, ouais. On le retrouve. Fait que finalement, le tsar fait quelque chose. Il me semble que c'est lui. Wedding et ses complices, dont plusieurs sont canadiens, ont été dépeints par les autorités américaines comme étant des criminels redoutables, violents et riches. OK. Qui emmènent large. Le message était clair. Il faut mettre hors d'état de nuire l'ex-athlète et ses collaborateurs, peu importe où ils sont, où ils se trouvent. La récompense pour quiconque permettrait au FBI d'arrêter Wedding est passée de 10 à 15 millions de dollars US. Ils ont mentionné les quantités records de cocaïne qui sont vendues pour le compte du criminel. Les enquêtes ont pu percer les secrets de l'organisme grâce à la collaboration d'un lieutenant de Wedding qui a retourné sa veste. Ses jours sont comptés. Ryan Wedding, toujours en cavale, est un narcotrafiquant international protégé par le cartel de Sinaloa. On parle du plus haut niveau de crime organisé. Au total, 7 Canadiens font partie des personnes appréhendées mardi dans cette enquête d'envergure du Federal Bureau of Investigation, j'aurais dû dire FBI. Tous sont en attente d'extradition vers l'État de Californie. Un Montréalais proche du tueur à gage, Atna Ohan Tommy Demorindi, est toujours recherché par le FBI. Montréal! America always gets his guys, réenchéri Bill Esali, procureur adjoint des États-Unis. Des documents judiciaires déposés par la justice de Montréal dévoilent les grandes lignes du dossier mené avec l'aide des autorités de la Colombie et du Mexique, qui a notamment mené à l'arrestation mardi du chef de gang montréalais Atna Ona, qui s'est attribué le surnom de Tupac. Ça, c'est peut-être l'affaire la plus étrange là-dedans. C'est pourquoi il se fait appeler Tupac? Il ne ressemble pas. En plus, dans les documents, le FBI décrit Ona comme un tueur à gages au service de l'organisation de Ryan Wedding. Wedding, qui lui a déjà habité Montréal, est à la tête d'une violente organisation de trafic de drogue établie au Mexique, chargée de transporter de grandes quantités de cocaïne de la Colombie vers des lieux en Amérique centrale et au Mexique, et du Mexique vers les États-Unis et le Canada, selon l'enquête. Chaque année, Wedding envoie 60 tonnes de cocaïne aux États-Unis, aurait dit Pam Bundy. Reste à vérifier si les quantités sont pas exagérées parce que ça reste la gang de Trump, mais évidemment qu'il y a énormément de trafic qui se fait et ce serait un gars qui faisait de la planche à neige à Salt Lake en 2002 qui gère tout ça. Donc voilà où grand slalom prend tout son sens. Et encore une fois, serrez la joke de neige que vous voulez. Donc, ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça se passe au Canada. Et aux États-Unis. En fait, ça se passe en Amérique au complet. On descend jusqu'en Colombie. Fait que c'est l'Amérique au grand complet. À la recherche de Ryan Wedding et de ses complices. Le Pablo Escobar des temps modernes. Allons-y de tous les qualificatifs qu'on veut, parce qu'il y a une série sur Pablo. Fait que ça serait pas impossible qu'il y ait une mini-série à quelque part de ce gars-là. Ça pourrait être une coprode Canada-anglais, Canada-français, vu que Wedding parle anglais, puis il a vécu à Montréal. Fait qu'on pourrait genre avoir Maxime Roy, puis Laurence Leboeuf qui ferait des personnages là-dedans, là, comme on les voit tout à l'heure. Charlotte Lebon pourrait être là-dedans aussi, elle ferait québécoise. À suivre, donc, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service sur les ondes de CFAX, sur les ondes de Chiz. À la semaine prochaine. Salut.